Voici la traduction en français de la conférence enregistrée numéro 6408 C04 SHSBC 33, intitulée « Un bref exposé sur l'étude ». Il s'agit d'une conférence donnée par Elron Hubbard le 4 août 1964 aux étudiants du Central Special Briefing Course. Copyright 1964-1982, Elron Hubbard, tout droit mondial de reproduction réservé. Nous sommes le combien de quel mois? Le 4 août AD14. Un jour mémorable parce que nous sommes le lendemain du Bank Holiday, le jour de vacances annuel des banques, et que personne n'a attrapé de pneumonie avec la pluie qui tombe habituellement le jour du Bank Holiday. Une journée très mémorable. Donc, Saint-Hill Special Briefing Course, le 4 août AD14. Très bien, je ne sais pas pourquoi vous m'avez fait attendre comme ça aujourd'hui. Il semble que vous ayez battu quelques records dernièrement avec vos notes d'examen. Les notes que vous recevez aux examens qu'on vous fait passer sur les conférences n'arrêtent pas de monter, 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 et je suis très fier de vous. Et je vous en remercie. Outre votre brio personnel, cela vient aussi de ce que je vous ai parlé de l'étude, de ce que je vous ai appris certaines choses sur l'étude, et je pense que vous avez appris pas mal de choses sur l'étude au cours des semaines qui viennent de s'écouler. Et le sujet de cette conférence, c'est l'étude. Je tiens à vous donner cette conférence, pendant que c'est encore tout frais, dans ma tête. Je vais vous donner un bref exposé, tant pis si je vous fournis des données en vrac et si elles sont mieux ordonnées plus tard. Je vais vous donner un bref exposé sur les choses que j'ai apprises sur l'étude. Et je bats mon record. Je suis venu avec des notes. Je ne veux pas attendre une conférence ultérieure pour vous dire ce que j'ai à dire parce que c'est déjà en train de devenir vague dans ma tête. Depuis quelque temps, je garde très peu d'informations dans ma tête et celles que je réussis à y mettre ont tendance à devenir vagues car elles se perdent. Donc, je ne voulais pas que ça arrive et je vais vous donner ces informations sur l'étude. Il n'a pas existé de technologie de l'étude ou de technologie de l'éducation. Voilà une déclaration qui semble exagérée et extraordinaire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a eu une technologie de l'école, une espèce de technologie de l'école, mais elle n'avait pas grand-chose à voir avec l'éducation. Il y avait la technologie qui vous expliquait comment aller à l'école, comment on vous apprend à l'école, comment on apprend aux enfants à aller à l'école, comment vous passez d'une classe à l'autre, comment vous passez des examens, comment vous faites pour aller en faculté, etc., etc. Elle était énorme, cette technologie de l'école. Et vous devriez faire la différence entre une technologie de l'école et une technologie de l'éducation. Voilà la première chose que je vous demanderai de faire, parce qu'il est rare que l'éducation, dans sa dernière phase, ait grand-chose à voir avec l'école. Vous avez cet ingénieur qui sort de l'école et qui se présente à son premier emploi, et on lui a merveilleusement appris à calculer, en mesurant les courbes, la quantité de gravier qu'il y a dans un tas irrégulier. Et en mesurant les courbes de diverses parties de ce tas de gravier, et en les formulant très soigneusement, il peut alors, en regardant cette péniche et en la mesurant, dire combien il y a de gravier dans cette péniche. C'est vraiment arrivé une fois. C'était à Cavite, un port des Philippines dans la baie de Manille, bien des années avant la guerre. Ce jeune ingénieur sortait tout frais de l'école, et c'est exactement ça qu'il a fait. Il est allé calculer la quantité de gravier dans une péniche en mesurant les courbes. Et ça n'a pas été du gâteau. L'ingénieur en chef du chantier lui avait dit d'aller voir s'il y avait assez de gravier, et on ne l'a pratiquement pas revu de l'après-midi. Finalement, l'ingénieur en chef, très très intrigué, est allé voir où le jeune ingénieur pouvait bien se trouver, ce qu'il pouvait bien fabriquer, se demandant s'il avait été mangé par les requins ou quelque chose comme ça. Il l'a trouvé près de la péniche, en train de mettre la dernière touche à ses calculs. Et le jeune ingénieur, triomphant, lui a dit qu'il y avait 150,7 mètres cubes de gravier. Il avait des pages et des pages de calculs. Et le contremaître, un philippin, qui se trouvait juste à côté, a regardé le jeune ingénieur d'un sale œil et lui a dit « C'est ça que vous faisiez ?» Et avant que l'ingénieur n'ait eu le temps d'intervenir et de découvrir ce qui se passait, il a ajouté « Vous voyez ces marques de peinture blanche sur le devant et à l'arrière de la péniche ? Eh bien, elles vous disent combien il y a de gravier dans la péniche. » J'ai eu un merveilleux exemple d'éducation pédante par opposition à l'éducation véritable. Hier soir, j'ai lu une dissertation sur les diapositives et la préparation des diapositives. Quel calcul compliqué! Il fallait déterminer la distance de l'écran et la densité de la diapositive pour obtenir une projection convenable dans une salle de conférence, et ça continuait pendant des pages et des pages. Et si je n'avais pas eu une bonne expérience dans ce domaine, j'aurais vraiment pris tout ça au sérieux. Mais il s'agissait de quelqu'un, je crois qu'il a tout bonnement laissé courir sa plume sans pouvoir l'arrêter, parce que ce que vous faites quand vous avez des diapositives un peu sombres, c'est prendre une lampe plus puissante. Vous ne commencez pas à déplacer le projecteur d'avant en arrière en calculant le degré de réflexibilité de l'écran. Donc, vu mon expérience, et j'avais une expérience considérable, je connaissais les diapositives et les densités, etc., je savais que ces données qui m'étaient transmises si laborieusement avaient très très peu d'importance. C'était intéressant. C'était intéressant que quelqu'un puisse en écrire une telle tartine sur le sujet. Mais Reg, Benwick et moi, dans un cirque il n'y a pas longtemps, avec un voltage incorrect et de vulgaires draps de lit tendus entre deux mâts de cirque, nous avons réussi à obtenir une image 4 ou 5 fois plus grande que la normale avec des diapositives et un projecteur ordinaire. Le public était ravi. Et les images étaient très belles. Nous avions un écran qui faisait 4 mètres sur 4 et qui était composé de draps. Et en plus, les draps étaient froissés par endroits. Et sur 200 diapositives, il n'y en a eu qu'une qui a été un peu bizarre. L'un des plis a déformé le visage d'un jeune homme, tout simplement mal tombé. Bref, rien de sérieux. Vous prenez une diapositive de n'importe quelle densité et vous la mettez dans un projecteur équipé d'une lampe suffisamment puissante, et puis vous tendez un drap qui réfléchit bien, et vous aurez la plus belle projection de diapositive qui soit, et personne ne trouvera à y redire. 2 pages entières sur la façon de calculer la densité d'une diapositive, il n'y a vraiment pas de quoi. Donc, l'éducation véritable, par opposition à l'éducation scolaire, tiendrait compte de l'importance relative des données enseignées. C'est très très important, l'importance relative des données enseignées. C'est-à-dire la possibilité relative d'appliquer les données enseignées, la possibilité de les appliquer. Et l'enseignement scolaire, par opposition à l'éducation véritable, n'a en fait jamais vraiment tenu compte du facteur application. Par exemple, l'éducation pédante, l'enseignement scolaire, trouve très important que Pline, en l'an tant et tant, ait découvert l'existence des esturgeons. Qu'allez-vous faire de cette donnée? Et quelqu'un pourrait passer à côté d'une belle carrière parce qu'il est incapable de vociférer cette donnée. Voyez, vous avez ce gars qui a étudié l'ichtyologie, les poissons, et qui va travailler au bureau des pêches, et à l'examen, on lui avait demandé qui ou quoi a découvert les esturgeons, et où ont-ils été découverts? Et ce gars est là au bureau des pêches, sur la côte nord de la Norvège, et il fait moins 40 degrés, et la tempête fait rage, et il est en train de se figurer combien de haranguiers il va devoir sauver dans les prochaines 24 heures. Vous le voyez en train de se servir de cette donnée sur Pline? Elle est inapplicable. Donc, vous avez cette espèce de pédantisme dans le domaine de l'enseignement scolaire, qui n'a vraiment pas sa place dans le domaine de la véritable éducation. Vous allez trouver ce pédantisme dans le domaine des arts. Vous allez trouver des gens qui se prennent vraiment pour des artistes et pour des spécialistes de l'art, et qui sont uniquement capables de vous débiter des noms de tableaux. Il y a tel tableau, et tel tableau, et tel autre tableau, et celui-ci a été peint par Albert Nigaud en 1710. Et le genre. Vous demandez, dites-moi mon vieux, avec quoi Albert Nigaud a peint ce tableau? De quoi s'est-il servi? Bien, à mon avis, il s'est servi de peinture à l'huile. Voyez, il sait que le tableau date de 1710, qu'il a été peint par Albert Nigaud, et que le tableau s'appelle « Le matin de la honte » ou quelque chose comme ça. Mais vous demandez à ce gars avec quoi il peignait. Oh, je crois qu'il utilisait de la peinture à l'huile. Oui, il me semble qu'il utilisait de la peinture à l'huile. Eh bien, il n'a rien compris. Il est très utile de savoir avec quoi on peignait à telle époque. C'est très utile. Vous voyez quelque chose qui a été peint avec ripolin, et on vous dit que ça date de 1510, vous savez que c'est faux, parce que la peinture à base d'émulsion d'arachide n'existait pas à l'époque. C'est gros, non? Mais cela vous montre que le type de peinture employée est une donnée bien applicable pour détecter l'authenticité d'une peinture. Je vais vous fournir une donnée analogue. Hier, j'ai pioché comme un fou dans des encyclopédies pour voir si une certaine forme d'art y était mentionnée. Je ne la trouvais nulle part. Je cherchais une forme d'art appelée le doréotype. Je pensais qu'il s'agissait probablement du nom de quelqu'un, que c'était probablement lié à Gustave Doré et ses gravures. Eh bien non. C'est pourquoi le nom n'a pas survécu. Il n'avait pas été emprunté à quelqu'un. Il s'agissait simplement d'une forme de reproduction artistique dorée. Et c'est pourquoi on l'appelait le doréotype. Et ce nom est si ésotérique qu'il n'a survécu que chez les super professionnels. Le gars qui est vraiment au courant et qui a fouillé partout sait qu'il existe une chose appelée le doréotype. Vous voyez ? Mais à part lui, personne n'en connaît l'existence. Tout le monde sait par exemple ce qu'est le daguerréotype, mais qu'est-ce qu'un doréotype ? Eh bien, c'est une donnée importante quand on étudie le développement de la reproduction photographique. Et il a donc existé ce doréotype qui mettait une photo en valeur d'une façon singulière. Eh bien, vous devriez pouvoir retrouver ce genre de choses. Mais que Pierre, Paul ou Jacques l'aient inventé n'est pas très important. Par contre, comment on procédait à l'époque pour réaliser un doréotype, eh bien, ça c'est important. Donc, dans le domaine de l'éducation, vous devez faire très attention à ne pas vous enfoncer dans la signification. Ne vous enfoncez pas dans la signification au détriment de la masse. Voilà une donnée très intéressante. Maintenant, lorsque vous opposez la signification à la masse, vous entrez dans le domaine de l'action. Et l'on pourrait définir l'action comme suit, la signification par opposition à la masse, ou la masse par opposition à la signification. Bon, je suis un peu loin quand je dis ça, vous comprenez, mais la raison pour laquelle on se lance dans une action ou dans un faire, c'est qu'on a l'idée d'accomplir quelque chose, de faire quelque chose ou d'éviter quelque chose. Il y a une signification ici, une idée. Quand nous regardons un tas de particules voler dans tous les sens, et que nous disons « c'est un méli-mélo », nous avons ajouté de la signification à la masse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans l'éducation, lorsqu'on n'ajoute jamais de masse à la signification, et que vous avez uniquement la signification dans toute sa pureté, vous avez un programme d'études qui ne mène nulle part, car il n'y a aucun faire. Prenons un exemple concret. Je viens de vous en donner un exemple, qui a inventé quoi? Et maintenant nous disons, et à cette époque-là, ces deux hommes étaient perpétuellement en conflit, l'un d'eux trouvait que sa découverte connaîtrait un meilleur sort. Qu'est-ce que cette donnée fait là? Elle n'a aucune importance, ce n'est rien qu'une signification. Elle n'a rien à voir avec le faire ou l'action, elle n'a rien à voir avec la masse à laquelle vous êtes confronté. Tout ce qu'elle fait, c'est embrouiller les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'école est passée maître en matière d'embrouillamini. C'est à se demander si c'est vraiment l'éducation, son objectif. Donc, vous pouvez avoir une technologie scolaire qui enseigne, mais qui n'éduque jamais vraiment, qui ne forme jamais vraiment quelqu'un. Oui. Et ça pourrait prendre de sacrées proportions. Vous pourriez enseigner à toute une université l'œuvre de Thomas Hardy, ou bien les conditions de vie des mineurs des Cornouailles à l'époque romaine, ou encore tous les synonymes et tous les antonymes employés par les chasseurs et les chasseresses au XVIe siècle. Vous pourriez avoir des cours où l'on recale les gens parce qu'ils emploient le mauvais mot lorsqu'ils parlent d'un certain groupe animal. Par exemple, on dit une couvée de caille et une portée de renardeau. Vous voyez le genre? Le pédantisme avec un grand P. Mais quelle est l'erreur fondamentale ici? Eh bien, l'erreur fondamentale, c'est simplement qu'on n'ajoute pas de masse ou de fer à la signification. Vous dites, c'était un bon peintre, il peignait et peignait, il n'arrêtait pas de peindre, bref, il a beaucoup peint. Vous pourriez dire cela de 90 000 manières différentes. Il a rendu ses 7 premières épouses folles parce que tout ce qui l'intéressait, c'était la peinture. C'est intéressant pour la petite histoire, sans plus, mais ce n'est pas une donnée éducative. C'est une anecdote. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il a peint. Donc, vous devez tenir compte de votre étudiant. Votre étudiant veut devenir peintre, et j'ai bien peur qu'on ne passe tant de temps à lui enseigner combien de femmes tel peintre a eu ou n'a pas eu, que l'étudiant se dit que la peinture, ça consiste à se marier et à divorcer. Ou bien à être un catalogue ambulant. Maintenant, bien sûr, si vous voulez être expert en tableau ou critique d'art professionnel, non pas peintre, il vous faut pratiquement être un catalogue ambulant. Vous devez être capable de laisser tout le monde pantois, de battre tout le monde à plat de couture. Vous êtes en train de regarder une rangée de tableaux et vous dites « Oui, ce peintre ici a copié Hans Verboten. Hans Verboten est un peintre obscur du début du XVe siècle. » C'est des choses comme ça que vous devez savoir si vous voulez devenir critique d'art. Mais si vous voulez être peintre, c'est une autre histoire. Et c'est pourquoi les universités ne produisent presque jamais d'artistes. C'est presque impossible. C'est du jamais vu. Par exemple, les étudiants qui veulent devenir nouvellistes. C'est incroyable le nombre d'écrivains qui sont détruits dans ces écoles. C'est intéressant de voir comment on s'y prend pour les détruire. On sépare simplement la signification de l'action. On sépare ces deux choses. Résultat, tout n'est que pure signification, sans la moindre action, sans la moindre masse. Le gars se retrouve dans une espèce de non-confrontation du sujet, vous l'avez introverti. Pour introvertir un étudiant, donnez-lui un maximum de signification et un minimum de fer et de masse. Je ne vois pas comment je pourrais m'exprimer plus clairement. Si vous enseignez le billard à quelqu'un, donnez-lui un billard. Est-ce si difficile à comprendre? Ne lui enseignez pas l'histoire du billard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous avez séparé signification et fer, vous pouvez donner une culture à quelqu'un, mais vous ne pouvez pas l'éduquer. Et c'est comme ça que ça se passe. Si vous voulez vous retrouver avec une bande de diplômés incapables, si vous voulez vous retrouver avec des peintres qui ne savent pas peindre, avec des docteurs qui ne savent pas soigner, et des ingénieurs qui ne savent pas ingénierer, eh bien tout ce que vous avez à faire, c'est prendre le fer et la masse liés au sujet, et les mettre dans votre poche avec un mouchoir par-dessus en disant que ce n'est pas important. Et puis, concentrez-vous uniquement sur la signification. Et vous aurez alors quelqu'un qui manque complètement d'esprit pratique. Il n'y a qu'une façon d'arriver à ce résultat. Et c'est celle-là. Il n'y en a pas d'autre. Et si vous appliquez cette méthode à fond, l'étudiant ne sortira jamais de l'université. Il deviendra professeur. J'ai appris la chose suivante. C'est une grave erreur d'enseigner un sujet qu'on est soi-même incapable d'appliquer. Prenons quelque chose de bien concret. Prenons la scientologie. Si nos instructeurs ne savaient pas auditer, que se passerait-il ? Si nos instructeurs ne savaient pas auditer, voyez un peu la catastrophe quand ils essaient d'apprendre à auditer à quelqu'un. Admettons qu'ils connaissent l'histoire de l'auditing, qu'ils soient capables de vous donner le chapitre et le paragraphe de tout ce qui a été écrit sur le sujet, de vous dire où exactement trouver telle ou telle chose, et le nombre de pages, etc. Admettons qu'ils soient capables de faire tout ça, mais qu'ils ne sachent pas auditer. Ce serait plus ou moins catastrophique. Et lorsque l'instructeur a du mal à enseigner quelque chose, c'est en partie parce qu'il ne confronte pas le faire ou la masse de ce quelque chose. Comprenez ? Donc vous avez cet instructeur qui n'aime pas enseigner la géométrie, eh bien c'est parce qu'il est incapable de se servir de la géométrie. Et il ne comprend pas la géométrie. Eh bien, ce fait m'est apparu avec tant de clarté pendant mon étude de l'étude que j'en suis pratiquement resté foudroyé. Et je vais vous dire jusqu'où ça va. Une personne qui écrit un livre sur quelqu'un qui est capable de faire est trop éloignée du faire pour écrire un bon livre. Même si elle a consulté des gens compétents, elle est trop éloignée du faire et de la masse pour écrire un livre convenable et étudiable. Remarquable, non ? Maintenant, comprenez bien que si je vous dis tout ça, si je vous parle du sujet de l'éducation, c'est parce que je me suis rendu compte que si nous voulions progresser, et nous connaissons pas mal de choses sur le mental et l'esprit, eh bien il nous faudrait résoudre un sujet qui n'a rien à voir avec celui que nous essayons de résoudre. Nous avons hérité des échecs du passé. Ils n'ont pas résolu le sujet de l'éducation, donc c'est à nous qu'incombe la tâche de le résoudre. Si nous voulons être en mesure d'éduquer nos étudiants, de leur apprendre à appliquer notre sujet. Le sujet de l'éducation n'a pas été résolu. Beaucoup d'argent a été versé pour ça, mais on n'a pas résolu le sujet. Et vous en voulez à ces gens. Comme vous en voudriez à l'aiguilleur qui est payé pour appuyer sur le bouton et qui n'a pas appuyé sur le bouton et l'Orient Express a déraillé, et vous dites, cette espèce de blablabla, c'était son boulot, et il ne l'a pas fait. Et c'est la même chose ici. La même chose. Et nous voici donc obligés de confronter un sujet difficile, vu le domaine que nous étudions, alors que ce sujet de l'éducation aurait dû être complètement résolu. Et au lieu de cela, il est complètement embrouillé et truffé de préjugés. Et je me suis donc rendu compte, bien que nous ayons beaucoup progressé dans ce domaine, je me suis donc rendu compte qu'il me fallait acquérir un nouveau point de vue sur le sujet. C'est pourquoi j'ai pris un sujet d'étude similaire, analogue, en ce sens que c'est un sujet où l'application joue un rôle important. Le genre de sujet où la connaissance et l'application aboutissent à un certain résultat, et qui en même temps entre dans le domaine des arts, ce qui implique un certain jugement et un certain goût. Et j'ai donc choisi ce sujet, premièrement parce qu'il existait, et deuxièmement parce que je m'y intéressais. Mais surtout, parce qu'il présentait une analogie avec l'auditing. Autrement dit, il existe certaines théories et certaines actions qu'on est censé accomplir et qui aboutissent à un certain résultat si on fait preuve de jugement et de goût. Maintenant, la photographie et l'auditing sont très loin d'être la même chose. Mais il y a quelque chose que l'auditing et la photographie ont en commun. Lorsque vous faites certaines choses correctement, vous obtenez un résultat. Un certain résultat. Mais si vous les faites incorrectement, vous n'obtenez pas de résultat. En outre, si vous les faites sans faire preuve de bon sens, vous n'obtenez pas non plus de résultat. Vous voyez ? Vous pouvez comparer ces deux sujets. Donc j'ai choisi le domaine de la photographie et j'ai pris ce cours pour professionnel qui ferait pâlir l'étudiant le plus courageux, et je l'ai étudié de A jusqu'à Z. Il m'a fallu intercaler ce cours entre toutes les autres choses que j'ai eu à faire au cours des derniers mois, et il m'a permis d'apprendre pas mal de choses. J'ai pu faire subjectivement l'expérience de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons, et que je ne pratiquais qu'en dilettante, et je pense que je commence à obtenir des résultats dignes d'un professionnel, comme je vous l'ai montré l'autre jour. Donc j'ai bien étudié le cours, ce qui m'a permis d'obtenir un résultat bien déterminé. J'ai dépassé le point maintenant. J'en suis plus simplement à étudier le cours. Je suis capable maintenant de produire des résultats qui dépassent le stade du bon résultat. J'ai dépassé ce point. Par exemple, c'est très bien de faire ceci ou cela en appliquant le manuel à la lettre. Mais si vous êtes vraiment capable d'appliquer le manuel à la lettre, eh bien, vous pourrez apporter ce petit quelque chose de plus qui fera de votre photo quelque chose d'incomparable. Voyez ? Autrement dit, vous maîtrisez si bien la théorie que vous êtes capable de réfléchir pendant que vous appliquez le sujet. Et j'en suis finalement arrivé là. Et j'ai remarqué un grand nombre de choses dès le début, que je n'aurais jamais remarqué si je n'avais pas étudié ce sujet complètement différent. Je dis qu'en passant, ce domaine n'était pas quelque chose de complètement nouveau pour moi. J'avais déjà appris à travailler en chambre noire et acquis un point de vue sur l'aspect pratique de la chose. Et j'ai acquis un nouveau point de vue. Une formation purement pratique n'est pas suffisante. Il n'est pas possible de donner les outils de travail au gars et de lui dire « Très bien, va bricoler un peu avec ça, puis va travailler au Daily Express et observe les gars qui travaillent en chambre noire au Daily Express. Avec le temps, tu deviendras un bon photographe. » C'est faux. J'ai la preuve évidente que c'est faux. Vous en avez la preuve devant vos yeux chaque matin quand vous jetez un coup d'œil au journal. Ces photos, communément appelées photos de reportage, sont très mauvaises. Et chose étrange, la plupart de ces photographes ne sont pas formés. Et autre chose étrange, les cracks, ceux dont les photos font la première page des magazines, eh bien ils sont formés. Donc ce n'est pas un don qui leur est soudain tombé du ciel, voyez-vous. Ce n'est pas ce talent soudain acquis, le gars voit un appareil photo en disant oh, « Un grand trait de lumière jaillit dans son esprit et saisi d'une inspiration éblouissante, il prend l'appareil et fait clic-clic et ses photos font la couverture de tous les grands magazines. » Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et il peut faire tous les travaux ingrats qu'il veut dans le domaine de la photographie, nettoyer les plaques et tout le reste. Ce n'est pas pour ça qu'il deviendra un as de la photo. C'est ce qu'on dit aux jeunes gens qui veulent devenir photographes. C'est ça que leur disent les journaux pour qu'ils viennent travailler dans les chambres noires. Et ils ne disent pas la vérité. Les tout premiers photographes d'Angleterre sont des gens qui ont reçu une formation archi-rigoureuse. Même un peu trop rigoureuse. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons ? Prenez Tony Armstrong Jones. Seigneur, voilà quelqu'un qui applique les manuels de photographie à la lettre. Et quand je dis à la lettre, je veux dire à la lettre. Même quand il s'agit de prendre son propre bébé en photo, il ne peut s'empêcher d'employer l'éclairage standard décrit dans les manuels. Il ne se laisse pas troubler par le fait d'être père. Il va chercher les spots qui conviennent et il les place exactement comme il faut. Et l'une de ses photos a été un vrai coup de peau. L'un de ces coups de peau qui arrivent tout le temps et dont on tire profit. Quoi qu'il en soit, son éclairage était parfait. C'était quelqu'un dont les photos font la couverture des magazines. Il est photographe de design maintenant au magazine Sunday Times. Il a publié un article il y a 2 semaines. Et je sais qu'il a dû rire sous cape quand il a publié la photographie principale de l'article. Et il est à l'extérieur de l'immeuble. Et la texture de l'immeuble apparaît parfaitement sur la photo, la texture de la brique, du carreau, de la fenêtre, tout est parfait. Et vous voyez l'intérieur de l'immeuble comme en plein jour. Et je sais ce qu'il a fait. Il a fait, il n'y a que les pros qui remarqueront. Laissons-les se demander comment je m'y suis pris. Il savait que le public s'intéresserait à cette photo, sans plus. Et je suis sûr qu'il s'est dit, Voyons si quelqu'un verra comment je m'y suis pris. Je ne sais pas comment il s'y est pris, mais je sais comment moi je m'y serais pris. Mais il est impossible de photographier l'extérieur d'un immeuble en plein soleil et d'avoir en même temps tous les détails de l'intérieur de l'immeuble, à moins de faire un montage. Et ici, il ne s'agissait pas d'un montage. Alors, comment s'y est-il pris? Il a dû rire sous cap, parce que bien sûr, il a combiné deux spots, tout ce qu'il y a de plus standard. Il connaît son boulot à la perfection. En plus, il a obtenu ce résultat extraordinaire avec une pellicule couleur. Il est impossible de voir à la fois l'extérieur et l'intérieur d'un immeuble dans tous les détails, avec la même intensité de lumière. Et puis, vous ne pouvez pas prendre ce genre de photo en couleur, car les pellicules couleur ne sont pas conçues pour ça. Mais voilà le genre de choses qu'on peut attendre d'un pro. Seulement, comment se fait-il qu'il en soit capable? Eh bien, il connaît toutes les façons correctes de procéder, et donc toutes les façons d'échouer. Ce qui lui permet de penser à ce petit quelque chose de plus. Voyez? Il connaît si bien son matériel et tout le reste qu'il est capable de penser à ce petit quelque chose de plus qui fait de lui un champion. Le photographe des stars en Angleterre est un gars du nom de Tom Hustler. C'est toujours à lui qu'on fait appel pour photographier les stars, et ses photos déclenchent un enthousiasme délirant. Eh bien, c'est très surprenant parce que Tom Hustler n'a jamais rien fait d'autre dans sa vie que prendre des photos, tout ce qu'il y a de plus standard. Il n'ajoute même pas la petite touche supplémentaire. Ces photos sont si standards qu'elles en sont pénibles à regarder, si vous êtes un professionnel. Le reflet dans les cheveux est toujours exactement là où il est censé se trouver. Vous savez, ce petit reflet dans les cheveux que vous voyez dans les portraits. Sa lumière principale et sa lumière secondaire sont toujours placées au millimètre près. Le fond est toujours parfait. Mais ce n'est rien d'autre qu'une photo techniquement parfaite. Il n'y a personne d'autre en Angleterre qui en produise de semblables. L'autre jour, j'ai vu des photos de Lancer, le grand photographe de théâtre, soi-disant. Il est à peu près aussi standard qu'un cuisinier qui fait bouillir un steak. Et ça se voit sur ses photos. Elles sont imparfaites. Son éclairage, c'est n'importe quoi. Il ne sait pas se servir de ses spots. Pour photographier des stars, il prend l'éclairage dont on se sert pour les portraits de bébés ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas un professionnel. Point. Et ça se voit d'un coup d'œil. Ben, les gens regardent la photo et vous leur montrez une photo dont l'éclairage est parfait et vous leur demandez « Qu'est-ce que vous pensez de celle-ci ?» Ils disent « Oh, c'est une belle photo. » Oui. Et vous leur montrez celle d'à côté qui a une imperfection technique, et ils ne l'aiment pas autant. Ils sont incapables de vous dire pourquoi, ils sont des gens ordinaires. Le critère, en photographie, donc, c'est le goût du public. Qu'est-ce que le public veut voir et qu'est-ce que le public aime voir? La photographie est un tout nouveau sujet. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. C'est un tout nouveau sujet. Il a un peu plus d'un siècle. Aux environs de 1810, quelqu'un a dit « Vous savez quoi? Quand je barbouille un morceau de papier avec certains produits chimiques bizarres, j'obtiens une ombre violacée. » Et c'est comme ça que tout a commencé. La photo couleur est loin d'être quelque chose de nouveau. À tel point qu'il y avait déjà des projections publiques de photos couleurs à l'époque de M. Brady, et pas des photos peintes à la main. Mais le sujet lui-même n'est pas vieux. Ça ne fait pas longtemps qu'il existe. Il n'a pas vraiment eu le temps de devenir quelque chose de snob. Il n'a pas eu le temps de se perdre. Donc ce que je veux dire, c'est qu'une absence totale de signification et une totalité de fer et de masse vous mènera tout droit à l'échec. Autrement dit, vous pouvez envoyer ce gars travailler comme aide dans une chambre noire du Daily Mail ou lui faire emballer le matériel d'un grand photographe, ou encore lui faire régler l'intensité des spots pour Lancer pendant 30 ans, sans qu'il devienne jamais un professionnel. Donc un professionnel, c'est quelqu'un qui connaît la signification, la masse et le faire. Il faut ces trois choses pour faire un pro. Impossible à un étudiant d'obtenir le moindre résultat s'il a uniquement du faire et pas de signification, ou uniquement de la signification et pas de faire. Par conséquent, l'éducation est une activité qui accorderait autant d'importance à la signification qu'au faire. Vous accorderiez une importance égale à ces deux choses. Bon, je ne vous apprends rien de nouveau. Nous savons cela depuis un certain temps, mais cela m'a été complètement confirmé pendant mon étude de la photographie standard contemporaine. Et vu tous les obstacles qu'il m'a fallu franchir, et vu que j'ai presque fini ce cours et que je suis prêt pour l'examen final, je me suis dit que je ferais mieux de noter tout ce que j'ai appris. Mais l'une des choses qui m'a frappé tout au long de ce cours, c'est qu'un pro, un véritable pro, c'est quelqu'un qui connaît la signification et qui a acquis de l'expérience dans le faire et dans l'emploi de la masse. C'est ça, un véritable pro. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que tu fais du gars qui débarque soudain et qui développe toute une série d'appareils extraordinaires ? Eh bien, vous aviez affaire à un pro. Il ne s'agissait pas d'un novice. Mais il se peut très bien, en admettant que le sujet n'était enseigné nulle part, il se peut très bien que son éducation vienne de ce qu'il a personnellement beaucoup, beaucoup étudié. Voyez ? Il a étudié le sujet. Il l'a étudié sous toutes ses coutures. Prenons par exemple le bonhomme qui a projeté les premières photos couleur. Je vous parie qu'il aurait pu vous dire toutes les photos qui avaient été prises et tous les livres écrits sur le sujet, vu que le sujet ne remontait pas à plus de 20 ou 30 ans. Je suis sûr qu'il devait savoir tout ça. Et en étudiant sa vie d'un peu plus près, vous découvririez probablement qu'il était aussi chimiste. Donc le professionnalisme, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est quelque chose pour lequel on a sué sang et eau. De plus, l'un des traits marquants du professionnel, c'est qu'il travaille dur. Le mot dilettantisme est censé vouloir dire le fait d'être bon dans beaucoup de domaines. Mais personnellement, je dirais plutôt absence de professionnalisme dans tous les domaines. Parce que l'une des caractéristiques du professionnel, c'est qu'il travaille dur. C'est un travail énorme de prendre toute la signification d'un sujet et de la traduire en action, en faire. Bon, tout ça c'est très intéressant, mais il y a un autre facteur, et ce facteur est le suivant. Vous n'êtes pas obligé de savoir tout faire pour être un pro. Ce qui nous laisse de l'espoir. Et c'est une leçon que j'ai apprise à la dure, si je puis m'exprimer ainsi. Vous n'êtes pas obligé de fabriquer un morceau de pellicule pour connaître le sujet des pellicules, voyez. Et heureusement pour vous, vous n'êtes pas obligé de fabriquer un mental humain pour en réparer un. Bon, j'exagère un peu, mais vous n'avez pas besoin d'auditer la procédure standard d'opération de 1950 pour pouvoir vous qualifier d'auditeur professionnel. Si vous savez l'auditer, tant mieux. Super, parfait, mais ce serait idiot de demander ça à un étudiant en 1964. Si aujourd'hui, avec ce que je sais dans le domaine de la photographie, j'allais me procurer certains produits chimiques et de vieux sabots de cheval, et que je les faisais bouillir pour obtenir de la gélatine, puis que je mélangeais ces produits chimiques et cette gélatine pour faire l'une de ces plaques sensibles qu'on faisait à l'époque, et que je mettais cette plaque encore mouillée, c'est comme ça qu'on procédait à l'époque, dans mon appareil, et que je l'exposais à la lumière, eh bien, qu'est-ce que ça m'apporterait ? Je pourrais toujours dire, eh bien, j'y suis arrivé. Et après, hein ? Ce n'est pas une expérience que je retenterais. Mon appareil serait fichu, évidemment. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut vraiment aller trop loin. Tiens, parlons-en, pendant qu'on y est. On peut vraiment exagérer avec le fer. je vous ai déjà montré qu'on pouvait exagérer dans le domaine de la signification. Pline écrivait sur de vieilles tablettes de cire avec un poinçon qui, ce jour-là, était émoussé parce que son esclave avait la migraine. Et il écrivait que les esturgeons pouvaient devenir fous avec la signification. Vous pouvez devenir complètement marteau. Vous pouvez exiger de l'étudiant qu'il sache les choses les plus extravagantes. Vous pouvez vraiment exagérer. Vous pouvez aussi ne pas lui en demander assez. Mais à l'école, ils y mettent vraiment le paquet. Ils demandent la lune. Ils sont complètement tarés. Ils rendent tout le monde complètement marteau. C'est une méthode pour empêcher les gens d'apprendre le sujet. Si vous ne nous dites pas tous les textes écrits par Sigmund Freud, vous ne serez jamais docteur en psychiatrie. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà en quoi consiste l'examen du plus haut diplôme de psychiatrie. On demande à l'étudiant de dire le titre et la date de chaque texte de Freud et l'endroit où ils ont été publiés. Bon, je sais que j'exagère, et s'il y avait un psychiatre ici, il ferait... Comment osez-vous ? Vous savez, comme Vixi, quand il reçoit un coup de pied. Mais ce psychiatre serait un fiefé menteur, parce que c'est vraiment ça qu'on lui demande à l'examen. Je le sais, j'ai connu un psychiatre. Je l'ai doucement fait passer au travers d'une crise de nerfs, une crise de nerfs qui s'était déclenchée parce qu'il devait passer cet examen. Je veux dire, jamais je n'aurais su en quoi consistait l'examen, sauf évidemment si je l'avais passé moi-même. Et c'est ça qui le rendait dingue. Et c'est donc ça qu'il a appris pour préparer son examen, et c'est ça qu'on lui a demandé à l'examen. Et voilà. C'était très drôle de le voir préparer son examen. Il était roulé en boule et suçait son pouce, vous savez, roulé en boule dans la position du fœtus, sur le divan, pour pouvoir étudier ses matériaux. C'était très drôle à voir. Je ne lui ai jamais dit, « Tu sais, mon pote, à mon avis, t'es en plein quiin. » Donc, trop de signification, c'est une façon de mener l'étudiant à l'échec. Maintenant, il y a une autre erreur que vous pouvez commettre. Vous pouvez lui donner un sujet dont il ne va jamais se servir. Voyons comment nous pourrions commettre cette erreur en scientologie. Vous lui enseignez toutes les données nécessaires pour auditer la procédure standard d'opération de juillet 1950 développée à Elizabeth, New Jersey. Et l'erreur, ce serait de tout lui apprendre sur le sujet, parce qu'il ne va jamais s'en servir. Contentez-vous de lui donner suffisamment d'informations pour qu'il puisse la reconnaître. Si jamais il la rencontre à nouveau quelque part, il dira « Eh, c'est la procédure standard d'opération de juillet 1950 à Elizabeth. Elizabeth, les bons vieux jours. C'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir ici. » Ah oui, ce truc-là, ouais, ouais. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est vrai, il procédait comme ça à l'époque. Vous voyez vaguement où cette chose vient se placer. C'est à peu près tout ce qu'on va enseigner à l'étudiant. Parce qu'il ne va pas s'en servir, voyez-vous. Et s'il ne va pas s'en servir, il va falloir enlever toute la signification. Comprenez ? Comme ça, vous gardez un équilibre. Si le gars ne va pas s'en servir, ôtez-en toute la signification. Voyez, il vous faut garder un équilibre. Mais s'il va se servir du sujet, eh bien, mettez le paquet. Prenons un procédé ésotérique comme le bromure. Il n'avait pas de pellicule panchromatique à l'époque, il se tapait la tête contre les murs. Il n'avait pas de pellicule qui réagisse à la couleur. Et ils avaient un mal de chien à faire apparaître sur leur plaque un arbre qui ressemble à un arbre. Chaque fois qu'ils prenaient une photo d'arbre, ils avaient toutes les peines du monde à obtenir un arbre sur leur plaque. Et ils ont donc développé ce procédé fabuleusement compliqué qui ressemble un peu à la photolithographie. Bon, je ne vais pas vous assommer de détails, mais c'est quelque chose d'abominable. J'en ai des frissons dans le dos, rien qu'à y penser. Et personne ne va jamais employer ce procédé au bromure. Il n'y a que les fous de la chambre noire, qui aiment bien toucher à tout, qui vont s'amuser à employer ce procédé au bromure. Parce qu'il existe des méthodes beaucoup plus simples pour parvenir au même résultat. Oui. Si un vétéran de la photographie à New York, un puriste fini, m'entendait, il dirait « Je ne suis pas si sûr que vous ne vous servirez jamais du procédé au bromure, on ne sait jamais, vous savez. Une fois, j'ai réussi à faire une épreuve au bromure en 30 jours. Et c'est à peu près le temps qu'il faut. C'est monstrueux. J'arrivais à la fin du cours, et je suis tombé sur un livre dont la moitié était consacrée à la technique du bromure. Vous rendez compte, la moitié d'un livre. Tout y était, avec les détails les plus sordides, les plus douloureux. Et soit dit en passant, c'était présenté de telle façon qu'il était impossible d'appliquer cette technique. Les actions n'étaient pas données dans l'ordre. Assurez-vous de bien mettre l'épreuve humide sur une plaque de verre de la bonne taille et appliquez bien l'épreuve. Mais avant de faire cela, il faut que l'autre épreuve soit prête parce que vous en aurez besoin dans une seconde. Oh non, voyez, vous lisez le texte, naïvement, vous lisez le texte en vous représentant mentalement l'action. Tout ça pour vous rendre compte que vous êtes trompé. On vous dit que vous auriez dû faire une autre action avant. Rageant. Vous avez le sentiment d'avoir commis une grave erreur. Donc le bromure y est expliqué dans ses détails les plus sordides, alors qu'on n'emploie plus vraiment ce procédé depuis des années. Vous pourriez probablement remporter le premier prix d'une exposition de photos avec une épreuve au bromure. Les juges diraient « Qu'est-ce que c'est que ça ? Ces épreuves sont très jolies. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon Dieu, un bromure, ça alors ! Donnez-lui le premier prix technique. » C'est à peu près tout ce que vous voudrez, une épreuve au bromure. Les juges seraient stupéfaits. Quelqu'un qui a fait un vrai bromure. Ils sauraient le travail que ça a demandé, vu qu'ils connaissent le métier. Le public, par contre, ne verrait pas la différence entre le bromure et les autres photos. Pourtant, c'est quelque chose qui requiert 30 jours de travail acharné. Mais enseigner cela, dans ses moindres détails, la température exacte, toutes les erreurs que vous pouvez commettre, etc., alors que vous n'allez jamais employer ce procédé, eh bien c'est vraiment dépasser les bornes, voyez. Vous avez tout ce faire que vous n'allez jamais faire, si je puis dire, on vous donne toute cette signification pour quelque chose qui ne se fait plus et qui ne se fera plus jamais. Donc, ce n'est rien d'autre que de la signification. Donc le faire est transformé en signification, ce qui crée un déséquilibre, et vous attrapez d'affreux maux de tête. J'en sais quelque chose, je me suis dit, il faut que j'étudie ce cours jusqu'au bout, sinon je n'aurai pas mon diplôme. Il faut que j'y arrive. Bon, vous faites votre pointillé. Bien, relisons cette phrase, vous faites abominable, vous savez, abominable. Jamais vous ne ferez de pointillé. Le pointillé, vous en fichez pas mal. Donc, il ne savait pas faire d'épreuves en 1890. Très bien, parfait, il se trouve qu'aujourd'hui, nous n'avons plus ce problème. C'est comme si on vous demandait d'étudier quelques-unes des listes sur l'aspect d'un PC qui avait été développé en 1950. Ces listes n'ont jamais été publiées. Ces listes, c'était la seule façon de détecter quelque chose chez un PC, vu que nous n'avions pas d'électromètre. Nous n'avions pas d'électromètre à l'époque. Nous avions ces listes. Si le PC faisait telle chose, cela veut dire telle chose. Et maintenant, admettons que vous deviez étudier cela sous toutes les coutures, alors que tout ce que vous avez à faire à présent, c'est lire le tonarme. On vous donne cette vieille technique dans tous ses détails, vous vous asseyez et vous auditez en prenant le pouls de la personne, et ensuite on vous décrit toute la procédure à suivre selon qu'il s'agisse de la façon japonaise de prendre le pouls ou de la façon chinoise, qui est une méthode plus compliquée. C'est d'ailleurs de cette méthode que je me servais. Je prenais le pouls à la chinoise. Ça en surprendrait plus d'un aujourd'hui. Mais il y a 14-15 ans, nous en étions au tout début. Nous ne savions pas bien où nous allions. Nous ne disposions d'aucune méthode pour savoir quelle était la réaction du PC, pour savoir si nous avions touché un sujet chargé. Nous ne disposions d'aucune méthode pour regarder dans le mental de quelqu'un, pour enregistrer ce qui se passait dans sa tête. Nous pataugions dans l'obscurité la plus complète. C'était pas la joie. Donc, si nous vous apprenions maintenant, alors que vous n'allez jamais vous en servir, à détecter une réaction du tonarme sans électromètre, en vous basant sur diverses manifestations physiologiques, comme le mouvement de la poitrine, très important ça, le changement de rythme de la respiration, la coloration de la peau, la coloration des yeux. Il existe toute une théorie selon laquelle on peut voir qu'un procédé est aplani d'après la coloration des yeux. Très intéressant. Qu'est-ce que vous diriez d'étudier les milliers de mots qui ont été écrits sur ce sujet? Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que ce sujet a existé. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Ce sujet vous permet de comprendre l'importance de l'électromètre. L'électromètre résout ce sujet très compliqué. Comment savoir ce qui se passe chez le PC? Et ce sujet avait de nombreuses ramifications. Si le PC réagit vraiment au procédé, la couleur de ses yeux changera, ou son pouls deviendra plus régulier. C'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir. Le reste, c'est du blablabla. Et il y a des gens qui passent leur vie à étudier le blablabla et qui s'amusent comme des petits fous. Vous avez des gars qui étudient l'histoire du bromure, ils l'étudient, ils ne l'appliquent pas. C'est pratiquement leur seul passe-temps, ou c'est leur profession. Donc vous pouvez faire accumuler à un étudiant des quantités incroyables de significations sans que cela développe son aptitude à faire. Tout ce faire qu'on lui donne à étudier devient de la signification. Donc venons-en à notre prochain sujet de discussion, transformer le faire en pure signification. Si vous en abusez, lorsque vous enseignez un sujet, votre compte est bon. Voici comment vous procédez pour transformer tout le faire d'un sujet en signification. Voici comment vous procédez. Vous prenez un sujet dont on ne fera jamais les actions, et vous le décrivez en long, en large et en travers. Vous l'avez alors transformé en signification. Maintenant, vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez convertir la signification en faire. Vous venez d'en avoir un exemple. Vous faites faire une épreuve au bromure à quelqu'un qui n'aura jamais besoin de faire une épreuve au bromure. Ce procédé au bromure n'est rien d'autre qu'une signification aujourd'hui, et à juste titre. N'est rien d'autre qu'une signification. Il a existé jadis une chose appelée épreuve au bromure. Très bien, ça a existé. Son principe était semblable au principe dont on se sert maintenant en photolithographie. La gélatine retient l'eau et l'eau repousse l'huile. C'est sur ces principes que s'appuie le procédé au bromure. C'est intéressant à savoir, vous pouvez en parler pendant un paragraphe ou deux. Maintenant, si vous allez trop loin et que vous faites accomplir à la personne quelque action dépassée qu'elle n'accomplira plus jamais, eh bien vous avez pris quelque chose qui aurait dû rester dans le domaine de la signification et vous l'avez transbahuté dans le domaine du faire. Et ça aussi, ça met l'étudiant dans tous ses états. Je suis sûr que ce serait chouette de moudre du blé avec une meule. Ça pourrait être un passe-temps, vous voyez, ça pourrait être très chouette. Mais il faudrait une raison valable de le faire. Une raison très valable. Par exemple, si c'était simplement pour voir comment on procédait autrefois, ce serait probablement une raison valable. Mais à condition que vous choisissiez de le faire. Vous avez remarqué mon choix des mots. Ce serait une très grave erreur de demander à un étudiant de le faire. Ce serait idiot. Et il réagit par une rupture d'ARC quand vous essayez de lui enseigner cela. Il ne parvient pas à comprendre pourquoi diable il doit le faire. Nous pouvons donc en tirer la conclusion suivante. Le faire et la masse d'un sujet, ce sont le faire et la masse de ce sujet qui sont actuels, applicables et utiles. Et c'est ce faire-là et cette masse-là qu'on devrait enseigner. Et on doit les enseigner avec insistance. Les masses et les faires applicables. Autrement dit, on doit enseigner à l'étudiant ce qu'il va faire dans le futur. Et le genre de signification qu'on doit enseigner à un étudiant, eh bien ce n'est pas du tout le genre de signification dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Il faut donner à l'étudiant un bagage de signification. C'est quelque chose que personne n'a compris. C'est comme ça que vous avez des ingénieurs à 40 ans qui ne sont plus dans le coup. Il faut lui donner un bagage de signification suffisant pour qu'il ne reste pas coincé dans le faire qu'on lui a enseigné. Autrement dit, vous lui donnez un peu plus de signification que prévu. Et c'est pour ça que vous lui enseignez l'histoire du sujet, que vous lui donnez une esquisse du développement du sujet, que vous lui montrez comment le sujet a évolué et quels étaient les fers appartenant au sujet. Vous voyez donc que c'est idiot de lui faire accomplir ces vieilles choses. Tout ce que vous faites, c'est lui montrer qu'il y a eu d'autres fers. Voyez ? Vous le familiarisez avec les principes dont il se sert, et s'il connaît bien ces principes, s'il connaît bien le fer et les autres actions que vous lui enseignez, il ne sera pas dépassé par les événements quand le fer évoluera. Parce qu'il sera capable de penser. Et c'est ça la différence entre un homme qui a de la pratique et un professionnel. Le pro applique toujours le manuel à la lettre, sauf qu'il fait toujours un peu mieux que ce qui est écrit dans le manuel. Et si quelque chose change, pour lui ce n'est pas vraiment un changement. C'est toujours la même chose, avec un aspect légèrement différent. Voyez ? Ça ne lui semble pas si flambant neuf que ça. Maintenant, vous entendez des gens, vous venez de changer un commandement répétitif, vous entendez des gens vous dire que vous avez changé toute la scientologie. Eh bien, ce sont des gens qui ont appris la pratique. Ils ont appris le faire, l'action de donner un commandement répétitif, mais ils n'ont pas appris la théorie qui explique pourquoi ils donnent un commandement répétitif ou ce qu'on essaye de faire avec un commandement répétitif. Par exemple, aplanir le comlag mental du préclair, ou quelque chose comme ça, aplanir le procédé. Tout ce qu'il savait, c'est qu'on répétait et répétait le commandement, et dès que vous en changez un iota, il croit que vous avez changé toute la scientologie. Mais le gars qui a étudié le sujet, et qui sait ce qu'est un procédé, ce qu'un procédé est censé faire, eh bien ce gars comprendra la signification de ce changement. Il dira... Eh bien, avant, ce procédé réduisait légèrement l'ARC du PC. C'est pourquoi il a fallu le changer. Il réduisait un peu l'ARC du PC. Très habile, cette nouvelle façon de formuler le commandement, car elle ne réduit pas l'ARC du PC. Elle ne cause pas de non-ARC chez le PC. C'est clair comme de l'eau de roche. Voyez ? Pour lui, rien n'a changé. C'est le calme plat. Tout est parfaitement normal. Donc un professionnel est capable de progresser, et un homme qui ne connaît que la pratique en est très souvent incapable. Et un théoricien serait quelqu'un de très cultivé, mais ce serait rarement quelqu'un d'éduqué. Quelqu'un qui ne s'occupe que de la théorie, et rien que la théorie, aurait une merveilleuse culture, mais il ne serait pas éduqué dans le sujet, parce qu'il lui manquerait le fer. Son fer serait inexistant. C'est simplement un expert en peinture du 19e siècle, c'est tout. Il connaît la théorie de toutes les peintures de ce siècle, rien d'autre. Ça ne se fait plus, la peinture du 19e siècle, et il est probable que ça ne se fera jamais plus. Mais vous constaterez que des fragments de culture comme ceux-là sont gardés dans un coin. Et ce gars peut devenir quelqu'un d'important avec tous ces millionnaires aujourd'hui qui essaient désespérément de sauver leur argent en achetant de l'art. L'art et les terrains prennent de la valeur. Et vous avez donc des gars qui viennent à des expositions aujourd'hui et qui ne connaissent rien à l'art, mais qui ont 100 000 dollars qu'ils veulent placer avant que l'inflation ne les absorbe. Et ils se disent que s'ils achetaient une bonne œuvre d'art, une belle œuvre d'art dont le succès futur est assuré, elle ne vaudra pas 100 000 dollars, mais 200 000 dollars avec l'inflation. Tout comme les terrains, l'art prend de la valeur avec l'inflation. Donc ça vaut de l'or. Donc ce millionnaire entre dans une galerie et il regarde ce tableau. Hein ? C'est d'une fille qui tient un quoi ? Vous voyez, il n'y connaît rien. Et c'est pourquoi il a un expert. Et l'expert ne sait pas peindre, mais il est capable de distinguer un original d'un faux. Ou quelque chose comme ça. Mais si ce gars n'avait jamais effectué le moindre fer dans ce domaine, s'il n'avait pas appris à détecter des faux, son opinion n'aurait aucune valeur. Il n'y verrait que du feu. Et il serait capable de refiler n'importe quoi. On trouve des métiers très bizarres dans une civilisation. Et quand il vous arrive de jeter un coup d'œil à l'un de ces métiers, vous vous dites que c'est uniquement de la théorie, que le gars est uniquement théoricien ou quelque chose comme ça. Mais c'est probablement le cas. Mais il n'y a rien de plus triste qu'un expert en machine à vapeur pour la réfection des chaussées. J'imagine qu'il y en a un en Angleterre aujourd'hui. C'est un expert, le dernier expert pratique dans le domaine des machines à vapeur pour la réfection des routes. Vous avez déjà vu ces machines dans les manuels ? C'était des machines à vapeur actionnées par des cylindres avant l'avènement du moteur à combustion interne. Cet homme connaissait bien la pratique. Il n'avait jamais étudié la théorie des moteurs à vapeur ou à propulsion, mais du point de vue pratique, il était imbattable dans ce domaine, voyez. Il était uniquement capable de faire, mais incapable de penser. Et il n'a plus été dans le coup. C'est devenu une antiquité, si je puis dire. Il est devenu inemployable. Donc, quand vous rompez cet équilibre entre faire et signification dans l'enseignement d'un sujet, vous n'avez pas éduqué l'étudiant et vous n'avez pas assuré son avenir. Donc, vous trahissez un étudiant dans la mesure où vous ne lui fournissez pas une éducation, mais une culture. Et c'est la chose contre laquelle les jeunes protestent le plus. On leur donne une culture, pas une éducation. On ne les prépare pas à la vie. Je vais vous donner une idée de la proportion que peut prendre ce genre de choses. L'autre jour, j'ai demandé à mes enfants d'écrire quelque chose, d'écrire leur nom, de signer leur nom. Si vous aviez vu le mal qu'ils ont eu, c'était sinistre à voir. Ils ne savaient pas écrire leur nom. Je suis tombé sur leur professeur pour lui dire ce que je pensais. Ils avaient fait des tas d'exercices d'écriture, mais ils ne savaient pas écrire leur nom. C'est pas un exemple merveilleux, hein? Vous pouvez être sûr qu'on leur a fait faire des boucles et des exercices d'écriture penchés, qu'on leur a fait faire tout un tas de choses, sauf écrire. Et vous voulez savoir ce qui clochait ici et pourquoi on en était arrivé là? Eh bien, parce que d'une façon ou d'une autre, on avait abandonné le faire pour basculer dans la théorie ou la signification. Le faire était devenu signification. Et ce qu'on faisait faire à mes enfants, ce n'était pas du faire, voyez. Je veux dire, écrire des mots n'a pas grand-chose à voir avec faire des boucles. Comme ils disent, hein, ce n'est pas du faire. Le gars est en train d'effectuer des actions, mais ce n'est pas du faire éducatif. Et c'est là que l'instructeur peut commettre une erreur. Sous prétexte que les gens sont actifs ou qu'ils font quelque chose, ils croient qu'ils sont en train de faire. Tout dépend de ce qu'ils font. S'ils ne sont pas en train de faire quelque chose dont ils vont immédiatement se servir dans la vie pour parvenir à un résultat, c'est qu'ils sont dans le domaine de la signification. Et ils réagissent comme s'ils se trouvaient dans le domaine de la signification. Ils commencent à se sentir très stupides, s'ennuient, protestent, s'énervent. Ils se sont rendus compte que ce faire dépasse les bornes, que ce faire n'a rien à voir avec ce qu'ils feront plus tard, et ils s'en détachent. Ils le traitent comme une signification. Car cela ne les mène nulle part. Il ne se passe rien. Alors autant dire que c'est une signification. Et donc toutes ces actions qu'ils effectuent ne sont pas des actions. Et c'est pourquoi ils ont ce sentiment d'ennui. Vous savez, tout ce mouvement, toutes ces actions, c'est du vent. En fait, il s'agit d'une signification qui comporte du mouvement. Mais cela ne mène nulle part, et ils ont alors cette sensation bizarre. Vous savez, ça provoque réellement une sensation physiologique. Ils ont l'impression de s'être heurtés à quelque chose qu'ils ne peuvent pas traverser. Une sensation bizarre, très bizarre. Elle est identifiable. Donc voilà, fondamentalement, les choses entre lesquelles un équilibre doit régner. Dans toute éducation digne de ce nom. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais voilà fondamentalement les choses entre lesquelles un équilibre doit régner. Il existe beaucoup d'autres choses très spécifiques, il existe beaucoup d'autres aspects bizarres qui sont très nets, très vrais, très positifs et très pratiques. Mais l'éducation devrait être une activité qui consiste à relayer une idée ou une action à un être d'une façon qui ne le rende pas stupide ou qui ne l'empêche pas de l'appliquer. Et c'est à peu près tout. Vous pourriez ajouter, et qui permettent au gars de penser avec ce sujet et de le développer. il devrait être capable de penser avec le sujet et de le développer. Par exemple, le gars assimile cette idée que vous lui avez enseignée, une idée qui ne s'applique qu'aux peintures murales, mais vous lui avez donné un bagage suffisant, et puis vous lui avez dit que cette donnée s'appliquait aux peintures murales, et un jour il regarde une miniature et il dit « Mince alors, cette idée qui s'applique à mon travail s'applique aussi aux miniatures. » Je vais vous en donner un exemple qui me vient à l'esprit. Il ne faut jamais peindre une photographie murale avant qu'elle ne soit assemblée sur le mur, en admettant que vous vouliez peindre une photographie murale. Eh bien, je vois le genre d'association d'idées qu'un gars pourrait avoir s'il avait du mal à faire des miniatures. Supposons que, pour une raison complètement absurde, quelqu'un lui dise de faire une miniature sur de l'ivoire. Bien, c'est faisable. C'est dans le domaine du possible. S'il connaît bien la photo murale, les diapositives et beaucoup d'autres choses, et s'il sait dans quel livre on décrit la façon de préparer une émulsion, vous savez, l'une de ces émulsions de base, vous la faites simplement avec du blanc d'œuf ou quelque chose comme ça, eh bien, il rassemblerait toutes ses connaissances, et puis il ferait très attention à ne pas peindre avant d'avoir tout fini. Autrement dit, les connaissances qu'il a dans la tête sont mobiles. Il peut s'en servir, il a l'esprit souple, voyez. Ses connaissances ne sont pas un tas confus dans lequel il mélange tout. Les enseignants ne devraient pas enseigner la technologie de telle façon qu'on ne puisse pas s'en servir. On doit être capable de penser avec. Vous devez vous rappeler, quand vous enseignez à cet ingénieur tout ce qu'il y a à savoir sur la physique nucléaire, que dans une douzaine d'années, grâce aux investissements du gouvernement, et nous savons, vu que la physique nucléaire est très destructive, que le gouvernement va y investir des sommes énormes, donc, que dans 12 ans, grâce aux investissements du gouvernement, ce domaine va changer. Et donc, nous lui enseignons tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Eh bien, nous pourrions nous contenter de faire de lui un technicien qui a des tâches banales, sans intérêt, du genre lire les compteurs, ou bien nous pourrions lui enseigner la technologie actuelle, ou la théorie actuelle, en lui disant que c'est parole d'évangile, ou encore, nous pourrions lui enseigner le sujet de telle manière qu'il soit capable de penser avec. Et de ces trois possibilités, la seule qui convienne, c'est de lui enseigner le sujet de telle façon qu'il puisse penser avec. Car c'est un sujet qui progresse. Comme ça, l'étudiant ne sera pas complètement dépassé d'ici une douzaine d'années, voyez. Et si nous l'éduquions autrement, il serait complètement dépassé. Il ne serait plus dans le coup, vu que les gouvernements déboursent de l'argent à l'appel pour la recherche nucléaire. Ils ont des gars spécialisés dans les mathématiques, des gars spécialisés dans ceci, des gars spécialisés dans cela, etc., etc. Ça m'est égal ce qu'ils disent. Je me méfie toujours quand ils disent ce genre de choses. Ils disent qu'ils abandonnent la fabrication de l'uranium-235. Et puis ils ajoutent une phrase. Bon, admettons, ils laissent tomber la fabrication de l'uranium-235, nous voulons bien les croire, mais après il y a ce « parce que ». Et c'est ce « parce que » qui vous fait tiquer. Nous l'abandonnons parce que nous en avons suffisamment pour répondre aux besoins des 500 années à venir. Il y a ce « parce que ». La première partie de la phrase, d'accord. Ils abandonnent donc la fabrication de l'uranium-235, mais leur « parce que », mon œil, nous n'y croyons pas. Ils ont découvert autre chose, oui. Ils ont découvert autre chose qui fait ressembler l'uranium-235 à une vieille chaussette usagée. Et ça, ils ne sont pas prêts de le révéler. Chaque fois que quelqu'un découvre l'un de ses secrets, ou que le secrétaire d'État des États-Unis ou quelqu'un comme ça, saute dans l'avion pour aller raconter les derniers secrets atomiques à Khrouchtchev, chaque fois que l'un de ses zigs va crier sur tous les toits les derniers secrets atomiques, soit dit en passant, ce n'est pas les Fuchs et consorts qui volent ces secrets, même si ces types ont créé beaucoup de dégâts. Toujours est-il qu'à chaque fois que l'un de ces secrets est révélé, vous avez le gouvernement qui est pris de convulsions et qui s'écrie « Développons quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur qu'on n'a pas encore volé ». C'est la meilleure méthode qu'ils ont trouvée pour combattre l'espionnage. Parce qu'ils sont trop incompétents au niveau politique. Leur méthode de prévention de l'espionnage, c'est de trouver quelque chose de nouveau. Bien. J'imagine que le pauvre gars, à Birmingham, à qui on est en train d'enseigner la physique atomique, a probablement déjà 10 ou 15 ans de retard. Il va probablement sortir de l'université tout content et dire « Très bien, prenons les spourgnoufles. » Et les gars au travail lui disent « Les quoi ?»« Ah oui, ça, je me rappelle, c'est historique. » Et le dernier cours qu'on lui a enseigné traitait des spourgnoufles. Et il dit « Oh mais alors qu'est-ce que vous faites maintenant ?»« Ah, nous n'avons pas le temps, mais il y a une pile de livres là-bas dans le coin. Ce sont nos tout derniers rapports. » Donc pour préparer ce gars à la vie, il faut, quand on l'éduque, le préparer à ce genre d'atmosphère. Il faut lui apprendre à penser. Il faut lui apprendre que telle discipline, c'est telle discipline, et que telle action, c'est telle action. Mais en même temps, il faut lui apprendre à penser avec ses actions, à développer ses actions, et à les mener jusqu'à une conclusion bien déterminée. Il lui faudrait apprendre tout ça. Et c'est un sacré travail. C'est un sacré travail d'apprendre à quelqu'un que d'un côté, il s'agit d'une discipline qu'il faut respecter à la lettre, mais que d'un autre côté, il faut avoir l'esprit souple par rapport à cette discipline. Un sacré boulot, n'est-ce pas? Vous voyez donc le travail que ça représente. Vous essayez d'en faire quelqu'un qui soit capable de l'appliquer, jusqu'à ce qu'il obtienne un résultat, et qui soit aussi capable d'y ajouter ce petit quelque chose, ce petit machin en plus, qui fera progresser le sujet. Autrement dit, il doit être capable de penser de façon à ne pas devenir une vieille baderne. Apprenez-lui tout ça pour éviter qu'il ne devienne une vieille baderne. Et c'est un sacré boulot. Et en scientologie, plus qu'ailleurs, c'est ce genre d'enseignement que nous exigeons. Et quiconque étudie la scientologie est soumis à une très grande tension à cause de ces divers facteurs. La scientologie est un sujet qui progresse à toute allure, qui progresse beaucoup plus vite que prévu, et qui n'arrête pas de progresser de plus en plus vite. Et elle a largement dépassé toutes les espérances, et elle continue de le faire, et on en attend encore beaucoup plus de choses. Je veux dire, nous développons sans cesse des choses qui élargissent l'horizon. Vous voyez ? Par conséquent, l'éducation en scientologie est une affaire beaucoup plus délicate que dans n'importe quel autre sujet analogue. Ce n'est pas vraiment du gâteau. Et c'est pourquoi j'ai entrepris de découvrir quels étaient les équilibres qu'il fallait respecter. Ce que vous deviez faire pour amener quelqu'un à un point où il peut étudier sans trop de dégâts et de bouleversements. Et quels sont donc les points délicats de l'éducation ? L'éducation est bien sûr un sujet qu'on n'a pas résolu. Elle n'a même pas de définition, comme celle que je vous ai donnée tout à l'heure. Il n'existe pas de définition de l'éducation dans les écoles. Eh bien voilà qui est merveilleux, parce que qu'est-ce qui arrive quand vous allez au-delà de quelque chose dont vous ne connaissez pas la définition ? Vous vous fourrez illico presto dans le pétrin. C'est la catastrophe. Eh bien le domaine de l'éducation a eu des problèmes dès le moment où il a commencé à faire quelque chose dont il ne possédait pas la définition. Voilà l'erreur de base de l'éducation. Nous devons faire la différence entre quelqu'un qu'on éduque et quelqu'un à qui on enseigne. Il nous faut faire cette légère différence. Et puis il nous faut comprendre qu'il existe une technologie de l'école, et ce depuis pas mal de temps, mais que ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec la technologie de l'éducation, laquelle a été relativement peu développée. Donc ce n'est pas parce qu'on va à l'école qu'on devient quelqu'un d'éduqué. Par contre, la technologie de l'école est énorme. Et l'on enseignera un sujet avec succès dans la mesure où l'on maintiendra intelligemment l'équilibre entre l'action, les masses, et les significations relatives à ce sujet. Il faut un équilibre intelligent. Et il peut se produire ce renversement de situation étrange où la personne croit se trouver dans le domaine du faire alors qu'en réalité, elle est dans le domaine de la signification, vu qu'elle n'appliquera jamais ce fer. Elle peut naturellement se retrouver dans la situation inverse, elle est en train d'étudier une signification qui en réalité est un fer. Si ça marche dans un sens, ça marchera évidemment dans l'autre. On peut étudier la signification de l'action de contempler. Vous voyez jusqu'où on peut aller. C'est tellement idiot, ça ne mérite pas vraiment qu'on s'y attarde. Mais la signification, quelle est la signification d'une action? Eh bien, si quelqu'un était complètement bourré de signification, il pourrait en faire une espèce de sujet d'éducation. Vous voyez? Donc la signification elle-même pourrait devenir du fer. Ça paraît idiot, mais c'est vrai. Je parle maintenant de l'expert en art du 19e siècle. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie. C'est ce qui se passe quand on a reçu une vraie éducation, que les communistes soient d'accord ou pas. Mais vous avez ces experts qui gagnent leur vie en étant de véritables encyclopédies vivantes, en mémorisant des informations. Et ce genre d'individu connaît toutes les formules dans le domaine de la peinture. Il n'a jamais mélangé de couleurs, il ne saurait pas quoi faire si vous lui donniez un pot de peinture. En fait, il déteste l'odeur de la peinture, ça lui donne la nausée. Par contre, il est capable de rester assis là dans une petite pièce et de donner son avis d'expert pour tout ce qui touche à la peinture. La signification qu'il a assimilée est devenue son fer. C'est parfaitement accepté dans notre société. Donc, quelqu'un lui écrit une lettre. « Cher expert Durand, nous travaillons avec la formule de l'ambre et de la colophane et nous avons beaucoup de difficultés à développer telle et telle chose. Pourriez-vous nous fournir l'histoire de ce type de peinture ?» Et il répond « Ce type de peinture était employé à l'origine dans les pays de la mer Tyrrhénienne, etc. et leur ambre différait complètement des autres types d'ambre. » Et il continue comme ça pendant des pages. Et le gars qui reçoit la réponse, qui est un homme de la pratique, lit la lettre et s'exclame « Eh, pas étonnant que ça ne marche pas. Leur ambre était différent. C'est de l'ambre russe et l'ambre russe comporte de la cire d'abeille, donc il faut ajouter de la cire d'abeille à cette peinture. » Et il ajoute donc de la cire d'abeille et maintenant il peut peindre avec sa peinture. Mais l'expert ne voyait absolument pas comment ça pouvait s'appliquer à quelque chose. Il en a dit suffisamment sur le sujet pour permettre à quelqu'un d'autre qui applique le sujet de trouver un sens à ses informations. Voilà donc ce qu'est un expert. Vous avez des gars comme Einstein. Voilà quelqu'un dont le fer se composait uniquement de significations. Il a tellement réfléchi, calculé, cogité, pensé qu'il a plongé tout le monde dans la confusion. Mais s'il y en a un qui a stimulé les gens, c'est bien lui. Un maximum de mathématiciens ont essayé de le comprendre. Et le plus drôle, c'est que son travail n'a peut-être aucune valeur. C'est un peu idiot de dire... Quelqu'un arrive et vous dit que la vitesse de la lumière est C, et qu'elle ne change jamais. Qu'est-ce qu'il raconte? Quelle lumière? Je ne pense pas qu'il parlait de la lumière entre 3600 angstrom et 5600 angstrom. Je ne pense pas qu'il se voulait aussi précis que cela. Il a simplement dit « la vitesse de la lumière ». Bon, c'est très beau tout ça. Est-ce qu'il veut dire « la lumière que nous voyons communément » ? Par définition, la lumière, c'est simplement la vibration lumineuse que vous voyez. Donc, il a voulu dire cette lumière-là, la lumière visible. Eh bien, je suis très content que c'est ça qu'il ait voulu dire, parce que la lumière, lorsqu'elle traverse un prisme, ne voyage plus à la vitesse C. Qu'est-ce que vous en dites, hein ? Impossible qu'elle voyage à la vitesse C, pour l'excellente raison qu'elle émerge du prisme à des vitesses différentes. Sinon, vous n'auriez pas de spectre. Ah oui, mais maintenant, vous nous parlez uniquement de longueur d'onde, et vous nous parlez de l'amplitude de la longueur d'onde, et c'est pour ça que le rayon lumineux se décompose. Non, j'ai bien peur que cela ne puisse pas être vrai non plus. La vitesse ne peut pas être la même, parce que si vous avez déjà observé des soldats qui défilent, ceux qui sont à l'extérieur sont plus rapides, vont plus vite, que ceux qui sont à l'intérieur. Vous avez déjà remarqué. Donc, pour que la lumière se décompose et se disperse quand elle traverse un prisme, il faut bien que la vitesse y joue un rôle. Mais parce que tout le monde a fermé les yeux sur ce fait, et qu'Einstein a dit tout à fait le contraire, une idée bizarre a fait son apparition, et ça vous intéressera peut-être de savoir qu'on a finalement aboli la lumière. J'ai pensé que c'était drôlement chouette de leur part. Ils sont arrivés à la conclusion maintenant que la couleur, c'est simplement quelque chose fabriqué par l'œil qui la relaie ensuite au cerveau. Et qu'en fait, la couleur, ça n'existe pas nulle part. C'est ça qu'on vous dit, c'est ça qu'on est en train de m'enseigner en ce moment même. Génial comme idée. Mais si le gars, avant d'écrire cela, n'avait pas lu un texte de psychologie, j'aurais été plus heureux. Ça cloche complètement, ces histoires, pour une excellente raison. Une vibration est une vibration. Je ne vois pas ce que la psychologie vient faire là-dedans. C'est à cause de l'influence de vieux bougres comme Locke et Hume. S'il y avait un son, voyez Descartes, est-ce qu'il y a un son dans la forêt s'il n'y a personne pour l'entendre? Pourquoi diable vont-ils se fourrer dans ce genre d'impasse? Parce qu'il est très facile de répondre à cette question. Très facile. Ces gens confondent le rôle du tétan avec autre chose, parce que le tétan est bien sûr la variable essentielle qui manque dans toutes leurs équations. Donc le tétan construit cet univers, par conséquent il est évidemment capable d'en faire l'expérience. Vous pouvez faire l'expérience de tout ce que vous créez, donc une chose comme la lumière existe vraiment. Tout dépend du point de vue où on se place, et de la science du mental dont on se sert. Mais vous risquez d'avoir des idioties du genre « la lumière n'existe pas parce que vous n'êtes pas, maintenant en admettant que vous soyez, la lumière ne pourrait pas exister, parce que voyez-vous, si la lumière traversait vraiment la pupille pour aller exciter le cerveau et créer les diverses sensations connues sous le nom de couleurs, etc. Mais si ces choses n'existent pas en réalité, c'est donc évidemment qu'il ne se produit rien à l'extérieur de votre tête. Il ne se passe rien à l'extérieur de votre tête. » C'est comme si vous disiez « un cuisinier ne peut pas manger le gâteau qu'il fait ». C'est ce qu'on appelle chercher l'introversion totale. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, si nous voulons discuter de choses du genre « si l'arbre tombe, y a-t-il un son, s'il n'y a personne ?» à ce moment-là, autant se lancer dans un sujet de discussion comme « un cuisinier peut-il faire un gâteau et le manger ?» Mais il vous faudrait aborder un sujet plus élevé, le rôle d'un être ou d'un tétan dans cet univers. Il vous faudrait laisser tomber l'idée du tétan tout-puissant. Voyez, c'est le tétan tout-puissant qui a créé la lumière, et tout ce que vous pouvez faire, c'est percevoir la lumière et rien d'autre. Votre rôle se borne à faire l'expérience de la lumière, donc vous êtes effet total, écrasez-vous. Voyez comment ce genre de truc fonctionne. Eh bien, dans le domaine de l'éducation, il est très prudent de bien clarifier la prémisse ou l'hypothèse sur laquelle vous vous basez et de ne pas l'étendre à 1000 choses différentes. En physique, leur principe de base, c'est la conservation de l'énergie. Eh bien, laissez-les clamer cela bien fort, mais ne les laissez pas parler de l'organisation de la masse. Parce qu'ils sont simplement partis de la conservation de l'énergie. Et ils n'ont pas dit un mot sur la masse. Mais maintenant, ils essaient d'y introduire la masse en disant que la masse n'est rien d'autre que de l'énergie. Pourquoi en sont-ils arrivés là? Parce que leur principe de base, c'est la conservation de l'énergie. Personne, surtout vous, n'est capable de créer ou de détruire de l'énergie. Voyez, voilà le principe de base de la physique. Donc, évidemment, la masse, c'est de l'énergie. Et leur principe de base, ce n'est pas la conservation de l'espace, la conservation du temps ou la conservation de la masse, donc il faut que tout devienne énergie, évidemment, vu que c'est le principe de base. Donc dès le départ, les physiciens ne savaient pas où ils allaient, et donc où ils allaient commettre des erreurs. Ils vont commettre des erreurs, mais dès que quelque chose se présentera qui ne correspond pas à l'énergie, les bases de la physique seront complètement dépassées, et c'est donc la seule chose qui cloche en physique. Leur point de départ, c'est l'énergie. Donc ils ne sortiront jamais de cette histoire d'énergie. À cet égard, nous nous appuyons sur une assise très solide. Nous partons de l'être, le tétan, vous. Nous pouvons prouver que vous, l'être, êtes un tétan. Nous pouvons le prouver, et nous pouvons vous faire sortir de votre tête, et vous pouvez exister sans corps. Donc vous n'êtes pas un corps, c'est très simple, Nous ne le faisons pas très souvent et nous ne vous demandons pas de vous y exercer pendant le cours parce que ça rend les gens malades et malheureux, mais n'empêche que c'est faisable et que ça marche. Très bien. Donc nous disons que la base de cet univers, c'est le tétan. Voilà une assise solide. Mais évidemment, avec un tel principe de base, nous allons bien plus loin que tous les principes de base des autres sujets. Quand nous essayons de communiquer cette idée, nous nous heurtons à toutes sortes de préjugés. Nous nous heurtons à l'éducation des gens, à tous leurs bouleversements passés, nous nous heurtons pratiquement à tout. Donc la seule direction que nous pouvons prendre, c'est celle du processing. Nous ne pouvons pas vraiment commencer à aborder la théorie et la philosophie de l'univers, parce qu'il n'y a qu'en auditant l'unité, l'être lui-même, que nous gagnerons vraiment, vu qu'il est impossible d'éduquer l'unité dans son état dégradé. Vous voyez, c'est élémentaire. Donc malheureusement, il nous faut savoir tout ce qu'il y a à savoir, et le savoir mieux que les autres dans le passé, surtout dans le domaine de l'éducation. Sinon nous ne pourrons pas enseigner notre sujet. Vous attaquez un sujet très difficile, qu'on vous a rendu aussi facile que possible. Et au cours des derniers mois, pendant lesquels j'ai étudié l'étude, je me suis efforcé de vous le rendre encore plus facile. Bon, je ne vous ai pas communiqué beaucoup de choses dont vous pourrez vous servir au cours de cette conférence, mais je vous ai parlé de choses que vous avez peut-être observées. Disons que tout le système scolaire d'un pays fasse exprès de dispenser un mauvais enseignement à la jeunesse de ce pays. Ces jeunes en arriveraient au point où ils seraient incapables de recevoir une donnée. Disons que c'est la guerre et que l'ennemi leur envoie un message qui dit « Nous allons attaquer demain matin », mais ils sont incapables de recevoir une donnée. Le message était clair et net, et ils vont tous au lit et se font descendre en flammes, et c'est la fin de ce pays. On peut en arriver à la situation absurde où les gens sont incapables d'observer et de percevoir quoi que ce soit, où ils ne comprennent rien, où ils n'ont aucun ARC pour quoi que ce soit, ce qui pour moi serait une situation où le tétan est mort. À mon avis, il y a donc une grande similitude entre une mauvaise éducation et l'aberration. Et il me semble aussi qu'on pourrait investir pas mal d'efforts dans ce domaine en partant du point de vue désaberrer les gens aux niveaux inférieurs. Je vais vous en donner un exemple en passant. Dis-moi, ce serait un procédé répétitif, dis-moi un mot que tu n'as pas compris dans cette vie. Je pense que vous assisteriez à quelques-unes des régénérescences les plus intéressantes qui soient. Je pense que beaucoup des problèmes de l'individu s'envoleraient en fumée. Mais ici, dans ce domaine de l'étude, dans ce domaine de l'étude, nous nous trouvons sur une toute nouvelle avenue avec une thérapie qui va permettre de démêler les confusions au niveau inférieur et qui a l'air très prometteuse, très prometteuse. Mais ce qui m'intéresse principalement, c'est que vous, les scientologues professionnels qui entraînez les gens, connaissiez ce sujet. Ce qui m'intéresse, c'est votre éducation à vous, telle que vous êtes. Et j'essaie de vous rendre les choses aussi faciles que possible et de vous apprendre quelque chose sur la question. Merci beaucoup.